Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu du groupe et donc nous présenter Tungsten?
Alors, Tungsten, c'est un groupe de metal mélodique avec chant féminin, donc qui a été créé en 2015. Alors, on a sorti un album en 2017, on a sorti 4 clips depuis le début du groupe. Donc, il y a un clip sur le dernier album, le deuxième album qui vient de sortir le 24 mai. Et donc, on joue un metal, comme je disais, principalement mélodique, avec des influences qui sont assez variées, qui ont, alors en tout cas nous dans les groupes qu'on écoute, qui vont du death au metalcore, au heavy metal, enfin il y a vraiment plein de choses. Ce qu'on peut dire, c'est que globalement il y a une orchestration qui est assez lourde, et puis sur un chant qui est majoritairement clair et assez doux. Voilà, donc on est un peu en opposition sur ces deux choses là.
D'accord. Il y a une histoire particulière autour du nom, si ce n'est une passion pour le tableau périodique des éléments?
Alors, c'est exactement ça, en fait. C'est quand on cherchait un nom de groupe, il y a 4 ans, on est tous un petit peu, enfin, on était plusieurs à avoir un bagage assez scientifique, de travailler en tout cas dans la science. Et on s'est dit, bah tiens, quels sont les métaux qu'on peut éventuellement référencer? Puis en arrivant sur le tungstène, on s'est dit, bah tiens, ça c'est pas mal, et puis en plus on peut faire un jeu de mots foireux avec le thème à la fin.
D'accord.
Donc on prend ça, voilà. Et puis après on a réussi à faire un logo qu'on trouvait cool, donc voilà, ça a participé un peu au truc.
Donc on n'est pas passé loin d'avoir un groupe qui s'appelle Fer, Uranium ou Oxygène, quoi.
Voilà, c'est ça, voilà.
D'accord.
C'était à deux doigts, ouais.
Finalement, quand vous êtes retrouvés pour former le groupe, quelle était la démarche, quelle était l'idée entre vous?
Alors au début, en fait, c'était moi je travaillais sur Paris, et puis je suis revenu en Bretagne, et donc j'avais commencé à passer des annonces pour monter un groupe, et je cherchais un groupe un peu dans le style In Flames, donc avec du chant masculin.
Mmh.
Et donc j'avais trouvé un bassiste à l'époque, on avait commencé à bosser, on avait trouvé un batteur, puis on trouvait pas le chanteur. Et le bassiste de l'époque un jour est revenu en disant, bah ouais, on fait pas de chanteur, mais moi j'ai une copine qui aimerait bien tester, et puis est-ce qu'on peut la tester, quoi. Donc on a fait un essai, et puis finalement ça a collé tout de suite, quoi, que ce soit humainement et musicalement, et du coup on est parti comme ça. Donc ça a été assez naturel, en fait, ça.
D'accord. Avant d'aller un peu plus loin sur le groupe, tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours artistique et musical jusqu'à Tungsten?
Ouais, alors moi j'ai commencé à jouer quand j'avais 14 ans en groupe, donc toujours en guitare. Je faisais du guitare chant, en fait, quand j'étais ado, mais dans un projet de rock français. Ensuite, je suis parti faire mes études sur Rennes. Donc là, j'ai rejoint un groupe qui s'appelait Black Mammoth, qui était un groupe de thrash. Donc c'était pas un style, moi, que j'affectionnais directement, mais c'était un peu l'occasion qui a fait que les gars étaient super sympas, et puis ça me permettait de jouer, et puis finalement, en jouant, j'ai vachement accroché au projet, et puis on avait fait des dates sympas, donc c'était vraiment cool. Et ensuite, je suis parti bosser sur Paris, donc là j'avais arrêté un petit peu, et quand je suis revenu sur la Bretagne, c'est là qu'on a relancé ce projet-là, quoi.
Ok. Le choix de la guitare, ça vient, il y a eu un déclic.
Je pourrais pas vraiment me dire, en fait, j'ai commencé la guitare, je vais avoir 5 ans. Donc,
Mais parce que c'est les parents qui ont voulu la guitare, ou?
Non, en fait, j'ai des photos que je ne partagerai pas, mais où je suis à 3-4 ans avec une raquette de tennis en mode guitare. Donc c'était, je pense que ouais, ça assez tôt j'ai été attiré par ça, puis j'avais demandé à en faire très tôt, donc ouais, enfin 5-6 ans, quoi, en CP, je pense.
D'accord.
Et puis après, voilà, j'ai fait pas mal de classiques, après je suis passé en électrique. Et puis j'ai continué après, voilà, dans mon coin. Et donc c'est vrai que ouais, c'est un instrument qui m'a toujours attiré. Donc à tel point qu'aujourd'hui je me fabrique mes propres guitares. Donc tu vois les.
Ouais, j'ai vu que sur le crowdfunding il y avait un des prix, c'était une guitare justement.
Ouais, mais en fait c'était la dernière guitare, donc qui a pas été vendue, hein, mais qui était potentiellement dans les prix qu'on pouvait acheter. Ouais.
Et en termes de guitariste, t'as des références particulières ou des artistes qui t'accrochent plus particulièrement?
Alors moi, guitaristes préférés, c'est forcément tout jeune, hein, mais c'est Mathias Jeffs de Scorpion. C'est vrai que j'adore son style de jeu, un petit peu à la Hendrix, mais avec un côté quand même plus moderne. C'est un guitariste que j'aime énormément.
C'est même un peu étonnant parce que dans le groupe, on a l'impression que le guitar hero et le plus doué, entre guillemets, c'est Shaker. Et Jabs paraît peut-être un peu plus en retrait et pourtant il fait son boulot quoi.
C'est quand même Jabs le soliste hein, sur lui qui fait les solos et les plus techniques, on va dire.
Bah, d'accord, c'est peut-être plus une différence de personnalité hein, qui est plus en avant que l'autre.
Quoi. Ouais, c'est ça. Par contre, Shaker est plus en avant, quoi. Le côté un peu bodybuildé, le mec qui montre ses bras, qui est
grande gueule.
Ouais, c'est ça.
Et sur la scène Metal Prog, il y a des gens en particulier qui t'intéressent ou?
Ah ouais, par contre j'ai absolument pas la prétention d'arriver au terme du niveau de ces gars-là, mais un gars que j'aime beaucoup c'est Vasily Kotchi. Je trouve qu'il y a des solos qui sont assez tarés. Ouais.
D'accord.
Que ce soit dans la technique ou même dans le purement mélodique, il y a des trucs qui sont quand même assez sympas.
T'as accroché au dernier opus ou?
Alors non, en fait moi j'ai décroché de Dream Theater le jour où Portal est parti.
D'accord.
J'ai pas réussi à accrocher depuis, c'était vraiment déjà un petit moment. Et j'avais beaucoup aimé en fait le dernier album avec Floyd, qui se trouve pas sur le producteur d'APVM. Il y a un solo, alors je me rappelle plus dans le solo. J'espère que c'est pas sur le compte de Testament. Il y a un solo super mélodique. C'est plus sur un solo d'avant où je trouve le solo, qui était d'ailleurs pas forcément très démonstratif, qui était très technique sans être démonstratif, mais qui est aussi mélodiquement qui est un chef d'œuvre.
D'accord. Donc si on revient un peu sur le passé, est-ce qu'il y a un souvenir ou un événement ou quelque chose qui pour toi, dans la vie du groupe ou même plus personnellement, synthétiserait la période de Season 1 ?
Un événement qui synthétiserait ça, je pense que ce serait la release party en fait, qu'on avait faite avec Death Rock, qui est aussi l'assaut qui nous a fait jouer, qui nous a fait notre seconde release party. Et en fait ça a assez bien donné la couleur de ce qui a été le reste de date en fait. On se retrouve avec des gens qui viennent nous voir après le concert, on discute pas mal, on passe beaucoup de temps justement à échanger, à discuter avec les gens qui viennent nous voir, et surtout en fait on a commencé aussi à avoir des gens régulièrement donc qui étaient prêts à faire 100-200 bornes pour venir nous voir et qu'on retrouve quasiment à tous les concerts. C'est un moment qui a été super fort. Hein.
D'accord. Pour le premier opus et le deuxième, vous êtes passé par une campagne Ulule.
Oui, ouais, pour les deux, ouais. En fait, c'est la précommande, quoi.
C'est ça
vraiment en mode précommande, donc pas, c'est pas du financement pour financer aveuglément, en gros, tu vas pouvoir précommander l'album, donc en fait, tu nous donnes de la trésorerie, c'est un petit peu l'idée, ça nous permet d'avoir de la trésorerie pour pouvoir financer le projet et livrer les albums, livrer les t-shirts, les casquettes et tout ce qu'on propose. Voilà.
Avec quand même, enfin en tout cas, j'avais l'impression que c'était le cas pour Season 1, l'idée de, on voudrait pas sortir le boîtier cristal le basique, on voudrait un truc un peu plus chiadé, donc effectivement apportez-nous un de la trésorerie en avance. Quoi.
Voilà, ouais, c'est ça, c'est que du coup, après ça va en fait avec l'image qu'on essaye de donner du groupe, on essaye de travailler un petit peu l'aspect visuel aussi, et l'aspect scénique. Donc pour l'aspect visuel, c'est vrai qu'on n'est pas fan du côté boîtier cristal qui fait très années 80. Et le format Digipack est quand même un petit peu plus élégant, quoi. Donc c'est vrai qu'on était très content sur le premier d'avoir fait un Digipack et on a reproduit le truc sur le deuxième. Quoi.
D'accord.
Donc avec pas mal de pages dans le livret aussi. Le but c'est d'avoir un objet dont on est fier à la fin et qu'on espère que les gens vont avoir un peu de plaisir, tu vois, à découvrir, à feuilleter, à regarder les visuels, les images, les photos.
Ouais. Vous êtes en autoproduction ?
Oui, ouais, ouais.
C'est un choix ou c'est que vos démarches n'ont pas débouché sur un truc intéressant ou c'est quoi ?
On n'a fait absolument aucune démarche, ouais. Donc c'est vraiment un choix.
Mm-hmm.
La raison principale, c'est que pour l'instant, à notre niveau, on voit pas trop l'intérêt d'un label. Pour deux raisons principalement, c'est que y a globalement à notre niveau de cas de figure, soit le label il est payant, et bon il y a des gens qui vont pas considérer que c'est un label, mais en tout cas c'est des labels qui se vendent en tant que tel. Et pour nous c'est pas forcément normal d'aller payer pour un label.
Mm-hmm.
Surtout que derrière le boulot que fait le label est relativement flou.
La plupart du temps c'est la mise en magasin, c'est de l'accessibilité, de la distri.
Ouais, mais alors du coup ça commence à coûter cher, parce que si on paye un label qui va en plus prendre un pourcentage sur les ventes qui sont liées à les distributions, et qui va en plus généralement nous facturer des frais de distribution via, je sais pas, Season of Mist ou un autre distributeur, derrière tu te retrouves à vendre ton album 15€, t'en touches 3€, tu rentres même pas dans tes frais de pressage, quoi.
Ouais, bien sûr, ouais.
Donc du coup pour nous c'était pas un projet viable, en tout cas ce genre de label. Et derrière, le deuxième cas de figure, c'était trouver un label qui finançait l'album, hein, éventuellement, d'en chercher un. Et ce cas de figure-là, pour nous, n'était pas non plus très intéressant, parce qu'on était capable de produire l'album nous-mêmes, et qu'à la fin, ce qu'on cherchait, c'était uniquement les frais de pressage et de merchandising. Et derrière, on n'avait pas forcément envie de laisser, je sais pas moi, 50, 60% de nos ventes au label qui avait juste, en fait, avancé de l'argent. Donc on s'est dit, et puis on avait discuté pas mal avec avec des gens dans le milieu, notamment Johan de la OTV, avec Arnaud Strevel de Rancard, entre autres, qui nous avait dit, mais est-ce que ce qu'il vous faut à ce moment-là, c'est plutôt un attaché de presse.
Mmh.
Et vous sortez l'album vous-même, vous servez le financement pour faire le pressage, pour faire votre imprimer votre merchandising, et toute la partie promo, vous payez un attaché de presse, et là vous savez ce que vous allez payer. Vous payez pour un service que vous allez pouvoir identifier en tant que tel, ou vous allez avoir des métriques, des choses comme ça, et ce sera beaucoup plus productif pour vous de faire ça. Donc voilà où on en est en fait aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est passé par un client promotion pour ça.
D'accord, oui. Et puis comme tu disais, c'est pas filez-moi de la thune et puis après achetez l'album, c'est juste vous achetez l'album, vous nous faites confiance, vous prêtez à acheter l'album, et puis vous avez le produit final, quoi.
Voilà, c'est ça, c'est en fait 2-3 mois en avance de phase, vous commandez l'album et puis et vous allez le recevoir d'ici 2-3 mois, voilà.
D'accord.
Et puis en échange, vous nous avez aidé de manière inimaginable. C'est aussi le truc, c'est un projet humain aussi derrière.
D'après ce que j'ai pu lire, t'es un peu, en général votre philosophie c'est du do it yourself, mais toi en particulier t'es un peu monsieur je fais tout, puisque d'après ce que j'ai vu tu composes un peu tous les titres,
donc tu
joues de la guitare et en plus tu fais une partie du chant, le chant masculin, clair ou extrême.
Ouais, je suis un peu touché à tout, on va dire. Enfin, c'est surtout que je me mets assez facilement, j'aime bien apprendre des trucs que je vais pouvoir utiliser entre autres pour la musique ou autre chose. Et après en fait il y a aussi plein de parallèles entre le montage vidéo, le montage audio, le traitement d'image. Généralement, en tout cas la façon dont je vois ça, c'est que quand tu sais en faire un, ça demande assez peu d'investissement d'apprendre à faire quelque chose qui est sur un truc un peu similaire. Donc si tu sais faire du traitement audio, si tu sais faire du montage audio via Cubase, aller faire du montage vidéo, c'est pas très différent en fait. C'est les concepts sont les mêmes. Et puis aller faire du traitement d'image, c'est pareil, aller toucher à Photoshop, à des logiciels comme GIMP, c'est un peu le même état d'esprit. Donc du coup, à force de bidouiller, de faire des trucs comme ça dans mon coin, je suis monté en compétence sur ces domaines-là qui sont à la fois musicaux et puis visuels, quoi.
D'accord.
Et sans avoir la prétention d'être un graphiste, sans avoir la prétention d'être un photographe ou un ingé son, on le fait vraiment de manière très artisanale, quoi.
Ouais, je comprends. Et d'ailleurs, donc tu le présentes en disant voilà, t'es touche à tout, mais est-ce qu'en même temps t'es un peu t'as besoin d'avoir le contrôle, quoi?
Alors pas forcément, c'est plus que si personne veut le faire, je vais finir par m'y mettre.
D'accord.
C'est plus dans cet état d'esprit là.
Ok. Donc
ça, d'ailleurs, tu vois, là on passe justement par répliquer à promotion pour déléguer tout ce qu'on peut déléguer. Bon.
Mmh.
Et après le but c'est aussi de faire des économies.
Ah bien sûr, non mais ça c'est.
Donc ce qu'on peut faire nous-mêmes, on le fait nous-mêmes. Après les autres vont intervenir sur d'autres choses, donc. Ça peut être sur la com, sur l'organe des concerts, sur il y a un groupe, la vie d'un groupe, c'est pas que l'aspect technique en fait. Il y a aussi énormément de choses, se déplacer à des concerts, aller faire la promo du groupe à des concerts. Voilà, il y a quand même plein de choses qui interviennent. Ouais.
Non, et puis enfin d'ailleurs, vous êtes la preuve que entre guillemets d'une nécessité vous faites une force, puisque le produit, que ça soit sur le fond et la forme, est réussi. Donc la preuve que parce que vouloir tout faire et se vautrer partout, c'est pas une bonne idée, mais vous dites bon, je fais tout et puis c'est plutôt propre quoi.
En fait, c'est aussi un des critères, c'est-à-dire que quand on commence à faire quelque chose, à la fin on fait le point et puis on se dit est-ce que là le rendu il est pro, et s'il est pas pro on recommence, est-ce que ça vaut le coup de recommencer ou est-ce qu'on passe par quelqu'un. Et ça a été par exemple la démarche qu'on a eue sur le visuel, sur la pochette, où on avait commencé à travailler sur un peu de visuel, on avait parlé entre nous, et puis à la fin on avait ce truc avec la main là sur le livre avec l'espèce de flamme bleue, et puis on s'est dit bah voilà, on a ça aujourd'hui, est-ce que un graphiste va nous proposer quelque chose de mieux? Probablement oui, mais par contre combien va falloir payer pour avoir quelque chose de mieux? Et est-ce que ça va être 10 fois mieux, tu vois, si on est parti d'un investissement de zéro, si maintenant on met 400 ou 500 € dans la pochette, est-ce qu'on va avoir quelque chose qui va répercuter, tu vois, l'investissement qu'on y met? Pour l'instant, la réponse était systématiquement non, donc on s'est dit, on a quelque chose qui, pour nous, est suffisamment pro pour qu'on le passe sur la partie de production. Mmh. Et donc, on n'a pas lieu d'aller payer maintenant quelqu'un qui va peut-être faire un petit peu mieux, mais en tout cas, qui ne justifiera pas le fait qu'on aille dépenser 400 ou 500 € pour le faire.
Donc, on a ça au sujet de la pochette. Donc, bon, on voit effectivement cette main avec ce livre, le logo qui s'enflamme. Et alors, autour, il y a l'air d'avoir des instruments, soit de torture ou soit médicaux. Il y a une raison. Enfin, c'est surtout l'espèce de truc au-dessus du livre, là, qui ressemble, je ne sais pas, on dirait une molaire.
Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Il y a des dents qui traînent. La main est un peu écorchée. En fait, ça répercute un petit peu le thème de l'album, qui est basé sur l'histoire du monstre de Frankenstein, un petit peu arrangé à notre sauce. Mmh. Et donc, c'est le fil conducteur de tout l'album. Donc, tous les morceaux racontent une partie de cette histoire-là, où en gros, un couple, c'est l'histoire d'un couple dont la femme va tomber malade, elle va finir par mourir, et puis son mari va pas accepter en fait la mort de sa conjointe et va essayer de la ramener à la vie en allant chercher un manuscrit qui contient une formule pour la ressusciter.
D'accord.
Et puis on va passer par les différentes étapes, le fait que sa femme meurt, comment il va accepter le truc ou pas, comment il va se mettre à la recherche du manuscrit, il y a des gens qui vont essayer de récupérer le manuscrit, voilà, il y a toute une histoire qui est racontée derrière en fait.
Et donc à l'origine quoi, c'est une photo que tu as ensuite retravaillé, ou que l'un de vous, ou toi, ou je sais pas, a retravaillé graphiquement?
C'est un montage, ouais. C'est un montage en fait, pour être tout à fait franc, c'est la main qu'on voit dessus. Donc j'avais pris une photo de ma main que j'ai redécoupée sous laquelle j'avais mis l'âge de livre que j'avais modifié, que j'avais un peu réincrusté si tu veux, dans lequel j'ai incrusté le logo du groupe, dans lequel après voilà j'ai recréé des flammes, des choses comme ça. Donc, c'est juste un montage en fait à partir de photos, ouais.
C'est bizarre qu'on
travaille pour que ça se voit pas.
Le bouquin il a l'air d'avoir une couverture assez bizarre. Enfin, c'est sculpté, ou enfin, je sais pas tant comment on dit.
Ouais, c'est ça, ouais, ça fait un peu sculpté, ça fait grosse couverture en cuir, un petit peu.
Et c'est quoi comme bouquin? Le vrai, je veux dire.
Ah, je pourrais même pas te dire, c'était un bouquin en cuir que j'avais à la maison, et que j'ai photographié. Je sais même pas, en fait, ce que tu vois sur le dessus, c'est vraiment retravaillé. Hein. C'est des couches, des calques qui ont été superposées pour arriver à ce rendu-là.
D'accord.
Okay. Tu vois pas la couverture du bouquin d'origine.
Ah ok, je croyais que il était déjà comme ça, enfin on compte pas.
Non, non.
Ok. Comme tu es principal compositeur, c'est quoi, comment ça se passe? Est-ce que tu as un espèce de process habituel de création d'un titre?
Alors pas vraiment. Souvent, je me base je commence par la mélodie du refrain. J'ai besoin d'avoir un truc qui est accrocheur et puis qui va un peu driver le reste, et à partir de là le reste suit un peu naturellement, et ensuite on passe par une grosse phase d'arrangement tous ensemble. Donc, généralement j'amène une ébauche et ensuite on la démonte complètement et on l'arrange. Donc, tu vois, sur l'album là il y a eu à peu près deux mois et demi de composition, et on a passé 6 mois à faire les arrangements.
D'accord. Souvent il y a l'espèce de l'accroche du début du titre, c'est souvent un truc au clavier. Ça peut être un élément, enfin voilà, un truc électro ou au clavier. C'est toi qui les joues, parce qu'il n'y a pas de mention.
Alors c'est ils sont programmés en fait, donc c'est
d'accord.
Ils sont alors des fois oui, ça m'arrive de les jouer sur un synthé MIDI, mais généralement ils sont écrits à la main.
Ok. Okay, voilà,
et en concert on a des samples en fait. Donc on a un ordi qui les passe automatiquement, on joue au clic. Mmh. Et il y a Cubase qui tourne derrière, qui permet de contrôler les samples, de contrôler les lumières, de contrôler les sons de guitare, enfin voilà.
Ok. Ok. L'idée du chant alterné féminin masculin, c'était une envie dès le début, dès avant le même au sein de Season 1.
Alors ouais, ça a été quelque chose en fait qui est arrivé un peu naturellement pour aussi dynamiser les morceaux, tu vois, avoir c'est quelque chose qu'on fait un petit peu à tous les niveaux où tu vas avoir donc ce chant va se mettre en opposition au chant clair pour justement mettre en avant le chant clair. Donc la mélodie va plus ressortir, si tu veux, quand tu arrives sur le chant clair, parce qu'il est mis en opposition généralement avec un chant saturé. Et ça se retrouve aussi sur la façon dont les morceaux sont écrits, où tu vas avoir des fois des trucs très syncopés avec un passage qui va s'enchaîner, qui va être plus lié, ou qui va être en son clair, ou des choses comme ça.
Et donc
on aime bien mettre le truc en opposition.
Et c'est-à-dire que tu écris toutes les paroles et après vous vous répartissez qui prend quoi selon la dynamique du titre ou c'est tout est prévu d'avance ou...
Alors oui et non, là il y a une sorte de petite logique sur l'écriture, en tout cas sur la diction des paroles, où généralement moi ce que je chante c'est les parties qui sont en quelque sorte pensées ou parlées par le personnage par le...
D'accord.
Et donc
si tu relis ça au concept développé, ouais, d'accord.
Voilà.
Le chant en anglais, c'était une évidence? Vous n'avez pas fait d'essai avec du français?
Alors, on n'a pas fait d'essai parce que le truc, c'est qu'on avait... on a une orchestration qui est assez syncopée, donc qui est assez brutale, on peut dire, et qui se met en opposition avec un chant, du coup, qui est un peu enfin très clair, très léger. Et du coup, le français aurait un peu rajouté de... un côté un petit peu plus pas forcément guttural mais plus avec plus d'accroche que le côté lissé de l'anglais, donc on cherchait justement quelque chose qui était très très lissé sur le chant pour se mettre en opposition avec l'orchestration qui était elle plus un petit peu plus rugueuse, quoi.
D'accord. Donc tu assures le chant masculin aussi bien clair que extrême. Alors il
ouais.
Y a beaucoup de gens qui disent ah ben, ça serait bien si on avait un chant également extrême, maintenant faut pouvoir l'assurer. Comment tu as approché cette partie-là complémentaire de ton travail à la guitare?
Alors en fait ça a vachement évolué depuis le premier album. Je sais pas si tu as écouté le premier album.
Ouais, le premier album je le trouve beaucoup plus brut et là tu es beaucoup plus en maîtrise il me semble. Mais,
Voilà c'est ça en fait. C'est, sur le premier album moi c'était vraiment la première fois que je faisais du chant saturé, donc j'avais vraiment pas d'expérience, j'avais énormément de techniques là-dessus. Et c'est un d'ailleurs des reproches que moi je fais personnellement à ce premier album, c'est vraiment au niveau du chant saturé où je trouve que ça rend pas vraiment comme en tout cas ce que j'aimerais. Et donc j'ai énormément travaillé, le growl, le scream, et donc là sur cet album là c'est juste le travail qui a été effectué en amont qui permet de simplifier le truc, d'avoir un rendu qui est bien meilleur et aussi une fatigue en concert qui est quasi inexistante, donc ça c'est aussi appréciable, quoi.
Mais t'as bossé avec un coach vocal ou
Non, j'ai bossé tout seul en fait, avec des vidéos, avec tout ce que je trouvais, en essayant d'imiter entre autres, alors même si c'est pas du tout la même voix, mais Aaron de Beatrix the Martyrs. Et puis petit à petit, voilà, j'ai senti un peu ce qui se passait et j'ai eu des clics quasiment du jour au lendemain. J'ai vraiment trouvé la combine pour y arriver sans se faire mal et puis avoir ce côté un peu plus agressif et puis. On sent que ça vient pas de la gorge, quoi.
Ouais, c'est intéressant parce que comme ça vu de l'extérieur, se dire bon, je vais apprendre sur les vidéos YouTube, c'est justement la meilleure recette pour se cramer la gorge en 20 secondes, non?
Ouais, mais alors après j'avais quand même j'avais une longue formation de chanteur un peu plus classique.
D'accord.
J'ai fait pas mal de chants classiques quand j'étais étudiant. J'ai fait des études de musique avant une seconde carrière, on va dire.
Mmh.
Et du coup, donc j'avais quand même une base de technique vocale qui m'a, je pense, aidé à comprendre un petit peu aussi, tu vois, les mécanismes un peu plus gutturaux et puis voir comment on passait à ce tour-là sans se blesser.
Ok, bah non, super. Finalement, vous sortez un album tous les deux ans?
Non, on en a sorti deux effectivement en deux ans. On va se calmer, je pense, après.
Ouais, ma question, c'est est-ce que tu pensais que c'était votre rythme naturel ou que ça va un peu se ralentir?
Alors, ça va se ralentir. En fait, là, on a un peu forcé la cadence parce que il se trouve que Madeleine est partie un an en voyage. Ah. Ça a été l'occasion qu'a fait qu'on s'est retrouvé un an sans chanteuse physiquement présente. Donc, elle avait pris du matos avec elle pour s'enregistrer. Ça a été en fait vraiment ça le déclencheur. On s'est dit, bah finalement c'est le bon moment pour refaire un album. On avait changé de batteur, on avait un nouveau batteur qui était beaucoup plus technique. Et puis on voulait faire autre chose, quoi. On voulait aller sur un style plus abouti, plus recherché. Et donc ça a été vraiment le bon moment en fait. Tout a bien coïncidé. On s'est donné un an pour le faire. On a tenu le délai. Et puis c'est comme ça qu'on est arrivé à ce produit fait sur un an. Ouais. Sachant qu'on avait la date de release, je crois qu'en août, elle était déjà définie. Donc, on avait quasiment un an à l'avance, donc il fallait pas se planter.
D'accord. En plus, donc vous avez sorti récemment un clip pour Wandering Around the World.
Oui.
C'est un clip très, très sympa aussi, donc qui mélange une petite partie un peu scénarisée, enfin, où on voit un couple se balader, et donc le groupe. Ça fait un peu aussi carte postale de touristique du coin. Tu en gardes un bon souvenir, enfin, parce que des fois ça peut être un peu une plaie parce que c'est refaire 50 fois le même truc, mais
alors en fait on réalise des clips nous-mêmes, donc si tu veux, quand on tourne un clip, vu qu'on maîtrise tous les paramètres, on fait en sorte que ça se passe bien. On commence à être habitué, donc maintenant on est assez détendu et il y a toujours des imprévus. Alors que là par exemple on a eu un gros imprévu, c'était une Miss Bretagne qui devait tourner dans le clip. Ah. Et deux jours avant le tournage, donc un samedi soir à 8h, elle nous annonce qu'elle pourra pas être là le lundi, donc on avait réservé le lundi parce qu'elle était soi-disant disponible que le lundi. Mmh. Et donc il a fallu qu'on trouve quelqu'un un jour de semaine, un lundi, pour venir tourner. Et donc là on a fait marcher le réseau sur la page Facebook Tungsten, et en 10 minutes on a trouvé quelqu'un qui nous a dit, je pense que ma fille elle peut correspondre et elle est dispo, donc je lui demande et elle vous contacte. Et on a eu donc Mélissa qui nous a contacté, qui a été super, qui est magnifique, et puis qui a super bien joué le truc. Donc on a eu il y a toujours des impondérables, mais en dehors de ça.
Est-ce que vous aviez des critères physiques particuliers liés, je sais pas, au concept?
Non, on n'avait pas spécialement de critères physiques particuliers. C'est juste que, en fait, on cherchait quelqu'un qui était à l'aise avec la caméra. Et donc, quand on avait un peu discuté de ça, on s'est dit, on peut peut-être contacter des Miss, parce qu'elles sont habituées à faire des défilés, des trucs comme ça, donc elles sont habituées à regarder une caméra. À réagir face à une caméra, elles auront pas forcément ce côté stressé, tu vois, de quelqu'un qui va être novice. Donc c'est pour ça qu'on était parti sur Miss Bretagne. Et sauf qu'après on avait commandé la robe. Donc du coup, il fallait qu'on ait quelqu'un qui rentre dans une robe de 36.
D'accord.
Voilà. Et donc après, ça dictait déjà un petit peu le physique de la personne qu'on cherchait, parce que à deux jours du tournage, on pouvait plus changer la robe.
Non, bien sûr. Ok. Il y a d'autres choses, il y a d'autres clips dans les tuyaux ou?
Il y en aura deux et on va raconter le reste de l'histoire en fait. Donc le reste de l'histoire sera scénarisé.
D'accord.
Et d'ici un an et demi, on aura sorti deux clips, je pense.
Ils sont pas tournés encore donc?
Non, on va en tourner un, je pense, probablement cet été. Et puis l'autre après, je sais pas, en hiver ou quelque chose comme ça.
Ok. Qu'est-ce qui arrive pour vous là dans les semaines ou les mois qui viennent? Alors il y a un concert à Clisson au niveau les sessions off du Hellfest.
Il y a le Hellfest off. Il y a ensuite on joue avec la Ramoneur de Menhir le 22 juin. Ensuite on joue sur une grosse fête de la musique locale à côté de là où on habite à Plouvorne le 29. Ensuite, on est sur un festival en extérieur, sur une grosse scène, qui est en plus à une heure idéale, à 23h, le 5 juillet, donc la semaine d'après. Et le 6 juillet, on est en concert sur Brest aussi en extérieur.
D'accord, de toute façon c'est Facebook pour suivre les concerts.
Ouais, il y a toutes les infos, toutes les infos sont sur Facebook, et puis on est à jour très régulièrement.
Ok, et donc juste pour terminer, dernière question, comment tu vois finalement la scène métal française depuis depuis le Finistère?
C'est loin.
Bah surtout qu'on a l'impression que dans les tournées, la Bretagne, vous n'êtes pas gâtés, quoi.
Non, on n'est pas gâtés, et puis c'est compliqué même pour nous, tu vois. En fait, pour un groupe breton, venir jouer sur Paris, c'est 10 heures de route aller-retour, quoi.
Ouais.
Donc ça se chiffre aussi, c'est un budget, quoi. Faut arriver à trouver une salle, déjà, qui va pas te faire payer, qui va éventuellement t'indemniser un petit peu, espérer vendre du merch. Enfin, tu vois, par exemple, c'est suicidaire pour un groupe qui a pas de merchandising, qui a pas d'album, qui a pas de t-shirt, de venir jouer sur Paris, parce que là, pour le coup, c'est une perte sèche de 500, 600 euros s'ils payent pas la location de la salle. C'est quelque chose, si on veut développer un projet qui est économiquement viable, en tout cas pas viable dans le sens où on gagne de l'argent, viable dans le sens où ça ne coûte pas d'argent, c'est quelque chose auquel il faut penser, quoi.
Mais donc, comme tu disais, bon, vous êtes un peu en dehors des grands réseaux, mais donc, ça veut dire donc qu'il y a une scène locale qui est assez dynamique, ou bah à défaut que les groupes viennent chez vous faites les groupes vous-même, quoi. Enfin,
il y a une scène locale qui est assez dynamique, mais tu vois, quand t'as joué une fois dans l'année sur Brest, ou deux fois dans l'année sur Brest, une fois sur Quimper, une fois sur Guingamp et sur Saint-Brieuc, t'as vite fait le tour, quoi.
D'accord.
Pour arriver à sortir, c'est pas forcément facile avant d'épuiser le public, quoi. C'est le truc, c'est que si tu fais trop de dates au même endroit, les gens vont se fatiguer, quoi. Ils viendront plus après. Donc il faut arriver à trouver la bonne cadence pour pas épuiser les gens localement, et arriver à sortir, c'est pas facile, il faut les contacts, quoi.
D'accord, donc t'es plutôt optimiste sur ce côté-là, ou tu vois la réalité quand même difficile, quoi.
C'est aussi pour ça qu'on passe par Replica Promotion, pour justement nous aider à faire parler du groupe à l'extérieur de la Bretagne, où là on a quand même notre empreinte qui est déjà bien définie, on est connu, on peut faire dépasser un petit peu de monde. Et donc là, justement, essayer de dépasser un petit peu ces frontières qui sont assez fermées et se faire connaître en dehors de ça, quoi.
C'est tout le mal qu'on vous souhaite, en tout cas. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre.
Merci à toi, en tout cas, d'avoir pris le temps de l'album.
Merci, et puis donc tous nos voeux pour la suite, et puis on peut-être au plaisir de rapidement se reparler pour la suite.